Je suis content, heureux de vous retrouver dans le message que je vous propose de partager ce matin. Il y aura deux parties, une partie plus historique, un peu technique, et puis une autre partie un peu plus pratique. Noël, on est en plein dedans. Nouvelle année, c'est la période où les cadeaux affluent. Et vous serez d'accord avec moi que plus on offre un cadeau qui a de la valeur, plus on a de considération, plus on veut honorer, plus on a de considération pour la personne à qui on l'offre. Ingrid, elle m'offre toujours de beaux cadeaux. Elle a beaucoup, beaucoup de considération pour moi. Et puis, vous serez d'accord aussi que plus on connaît la personne, plus on est intime avec la personne avec laquelle on a établi une relation, mieux on pourra cibler le cadeau qui lui plaira. Ainsi, par exemple, si vous connaissez Mehdi, il aime bien les sneakers, c'est ça? Hein? Donc, si vous voulez lui faire plaisir, vous venez avec une boîte, on en trouve de grosses chez, au macro. Une grosse boîte de sneakers, alors vous allez le contenter, il sera content. Mais il va aussi, si vous le connaissez, lui, il aime bien les géodes, les pierres, les cailloux. Il aime bien, c'est toujours le d'actualité, n'est-ce pas? Et il aime bien les plantes aussi. Donc, si vous voulez lui faire plaisir, si vous le connaissez bien, vous lui offrez une pierre, hein, une géode ou une plante, et il sera ravi. Mieux on connaît la personne, plus on connaît la personne, plus on est intime avec elle, mieux on pourra cibler le cadeau qui lui conviendra le mieux. Noël, nous l'avons fêté de façon anticipative dimanche dernier, et c'est un autre événement que j'aimerais aussi rappeler de façon anticipative. Il s'agit de l'épiphanie. On n'en parle pas souvent dans nos milieux. Ce n'est pas une fête qui est célébrée dans les milieux protestants. Mais c'est quand même une réalité. L'épiphanie, ça vient de deux mots. Épi, la préposition épi, de, à, au, sur, mais aussi autant de, et ce qui est en rapport avec ce qui suit, ce qui est relatif avec ce qui suit. Donc, épi, et puis, phanein, qui veut dire apparaître, ou paraître. Donc, littéralement, souvenons-nous de la théophanie dont on a parlé il n'y a pas tellement longtemps. Donc, c'est une manifestation, une apparition de Dieu. Et l'épiphanie, c'est littéralement ce qui suit l'apparition. Ce qui suit l'apparition de la naissance, de la venue de Jésus, ou de Jésus en tout cas. Et qu'est-ce qui suit la naissance de Jésus? Bien, c'est la visite des mages qui sont venus pour saluer l'enfant Jésus. On va lire, j'ai oublié de lire le texte d'introduction d'ailleurs. On va lire un texte d'introduction qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 2. Il n'y a que Matthieu qui parle de la visite des mages. À partir du verset 1er jusqu'au verset 12 inclus. Matthieu 2, 1 à 12. Et l'évangéliste relate ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Verset 5, ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, car quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Jusque-là, notre lecture. Les mages. Que n'ont-ils pas marqué l'imagination des peintres, des graveurs, des conteurs, des folklores? Ils sont célébrés le 6 janvier avec la fameuse galette des rois. Moi, je n'aime pas quand je tombe sur la fève parce que j'ai toujours peur de me casser les dents. Ou alors, il faut qu'elle soit en plastique. Mais c'est souvent en porcelaine. En Espagne, ce sont les mages qui distribuent les jouets aux enfants dans leurs souliers. En Finlande et en Russie, on raconte que le Père Noël est en fait le quatrième roi mage. En Allemagne, par groupe de trois, des jeunes gens déguisés en mages, en rois mages, font du porte-à-porte, en chantant des cantiques et en récoltant quelque chose pour aider les plus défavorisés, les plus pauvres. Voilà où nous amènent toutes ces traditions, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Et la tradition veut aussi que, parmi les étables que l'on installe au pied du sapin, on y trouve les statuettes des mages en même temps que celles des bergers. Chose qui est peu probable, comme nous l'avons lu, puisque quand les bergers sont venus, Jésus était dans l'étable, tandis que quand les bergers sont venus rendre visite à l'enfant Jésus, ils étaient dans une maison. Jésus était avec sa mère dans une maison, Matthieu 2, verset 11. Donc, le folklore, la tradition, a voulu réunir finalement les mages et les bergers, mais il y a peu de chances qu'ils se soient croisés. Et c'est à partir du nombre des cadeaux offerts qu'on a aussi défini le nombre des mages à trois. Selon une tradition du XIIe siècle, les mages auraient été au nombre de 12, au nombre des 12 disciples. C'est au VIe siècle que l'on retrouve une trace d'un manuscrit qui mentionne le nom des trois mages. Vous connaissez le nom des trois mages, mais ça apparaît seulement au VIe siècle. Ah, c'est bien. Et pas Benoît. Melchior, Gaspard et Balthazar. Alors au XIIIe siècle, Jacques de Voragine, c'était un Italien, donc c'était quelqu'un de bien. Je ne sais plus s'il était archevêque ou évêque dominicain de la ville de Gênes. Dans son livre « La légende dorée », Il dresse un portrait de trois mages présentant trois types de générations différentes. Il y a Melchior, le vieillard, avec ses cheveux, longs cheveux blancs, sa barbe blanche, et puis il y a Gaspard, qui est juvénile, imberbe, au teint rosé. Et puis enfin, il y a le troisième, Balthazar, qui lui est barbu aussi, sans être une personne âgée. Donc il dépeint les mages en fonction de différentes générations, ayant différentes, faisant partie d'une génération différente. Enfin, au XVe siècle, pour marquer l'universalité des nations, on les fait venir des trois continents alors connus de l'époque. On est un petit peu avant la découverte de Christophe Colomb, des Amériques par Christophe Colomb. Donc, à ce moment-là, on ne connaît que trois continents, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Et c'est comme ça que on les fait venir de ces trois continents et on les définit, on les dépeint, on les dessine, on les peint avec trois couleurs de peau différentes, un noir, un jaune et un blanc. Les mages, comme le texte que nous avons lu nous le rappelle, ont apporté des présents à Jésus, des cadeaux à Jésus qui ont chacun d'entre eux une signification symbolique. Trois cadeaux qui révèlent chacun d'entre eux une partie de l'identité de Jésus. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, tout d'abord, il est admiré pour sa pureté, pour son éclat. Il symbolise la royauté et la gloire. En offrant donc de l'or à Jésus, les mages reconnaissent en lui sa royauté, reconnaissent qu'ils sont en présence d'un roi. Premier cadeau. Deuxième cadeau, c'est de l'encens. L'encens, on le trouve dans tous les temples du monde et il se consume en l'honneur des divinités. En apportant de l'encens à Jésus, les mages reconnaissent donc qu'il est Dieu. Et puis, le troisième élément, le troisième cadeau que les mages offrent à Jésus, c'est de la myrrhe. La myrrhe, elle, c'est une résine qui est odorante et qu'on utilisait dans l'Antiquité pour embaumer les défunts. Par là, les mages annoncent déjà à l'avance les souffrances et la mort rédemptrice de Jésus-Christ qui va s'offrir sur la croix, comme nous l'avons rappelé ce matin. Trois cadeaux, trois facettes de Jésus. Jésus, roi, Jésus, Dieu, et Jésus, homme, l'homme qui va souffrir, l'homme qui va mourir, l'homme qui va donner sa vie pour le salut de l'humanité. Quant à l'étoile, cette mystérieuse étoile qui apparaît en Orient, qui a servi de guide visuel pour que les mages puissent se rendre de l'endroit où ils étaient vers l'endroit où se trouvait Jésus à Bethléem. Qu'était-elle exactement, cette étoile? D'après Jean Chrysostome, qui est un évêque qui a été l'évêque de Constantinople au IVe siècle, eh bien, il s'agissait d'une lumière angélique qui était plus éclatante encore que la lumière du soleil. Ça, c'était ce qu'il pensait, l'interprétation qu'il donnait à l'étoile de Noël. D'autres pères grecs de l'Église ont pensé que cette étoile était en fait la Shekinah, la lumière de la Shekinah qui a guidé le peuple d'Israël dès qu'il est sorti du pays d'Égypte. Et puis, sur le plan scientifique, certains ont d'abord pensé à une nova. Donc, c'est une étoile qui explose, et en explosant, elle produit une lumière éclatante qui peut durer pendant plusieurs mois. Seulement, le problème avec cela, c'est que on n'a retrouvé dans aucun livre d'astronomie trace d'une nova ou d'une supernova à l'époque du roi Hérode. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'une comète. Mais là aussi, la seule comète qui est recensée dans les livres d'astronomie, C'est la comète Dalley qu'on a observée en 66 avant notre ère, donc avant Jésus-Christ, donc bien longtemps avant la naissance de Jésus. Alors l'explication la plus plausible, reconnue par plusieurs astronomes, mais qui elle aussi finalement est critiquée, c'est que l'étoile serait une conjonction entre deux planètes. Et le premier défenseur de cette thèse a été un des premiers astronomes, qui s'appelait Johannes Kepler, je crois. Oui. Kepler. Et pour lui, donc, l'étoile serait due à la conjonction, une grande conjonction, entre la planète de Jupiter et celle de Saturne. Et cette conjonction serait, elle, apparue à trois reprises aux environs de l'an 7 avant Jésus-Christ, ce qui correspond plus ou moins à la naissance de Jésus-Christ. Alors, est-ce que les mages ont suivi ce phénomène? Peut-être. Finalement, c'est pas ça qui importe. L'étoile des mages, elle a conduit les mages à l'endroit où Jésus venait de naître. Une autre question qu'on peut se poser. Comment est-ce que les mages ont pris connaissance de l'apparition d'une étoile particulière qui annoncerait un événement bien précis qui allait se produire à un moment bien déterminé? Comment est-ce que les mages ont été mis au courant de cette étoile, de la signification que pouvait avoir cette étoile particulière et de l'événement qu'elle annoncerait? Comment? À un certain moment, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il y avait d'autres écrits inspirés, hormis la parole de Dieu, puisque les mages ont quand même eu connaissance de l'apparition et ont interprété l'apparition de cette étoile d'une telle manière que cette interprétation les a conduites vers l'enfant Jésus. Est-ce qu'ils ont été... Et puis, je me suis souvenu que, et vous vous en souviendrez aussi, qu'au 7e siècle avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël a été déporté dans le pays des mages. À Babylone, dans un premier temps. Et puis, Babylone est tombée sous la domination des Mèdes et des Perses. Et à Babylone, il y a eu quelqu'un qui a eu une influence énorme auprès des rois de Babylone dans un premier temps, et puis auprès des rois des Mèdes et des Perses. Vous connaissez cette personne? Ben oui, c'est le prophète Daniel. Daniel dans la fosse aux lions, on s'en souvient, qui a eu un impact tel que le roi Darius des Mèdes et des Perses a pu dire ceci. On trouve ça dans Daniel chapitre 6, versets 26 à 27. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et on retrouve à peu près les mêmes paroles, les mêmes propos, sortis de la bouche du roi Nebuchadnezzar au chapitre 3, qu'on ne va pas lire, au chapitre 3, versets 28 et 29, qui manifeste un respect profond envers le Dieu d'Israël. Donc, dans ces contrées de Perse, de Babylone, le judaïsme, le prophète Daniel ont eu un impact considérable. Alors après l'édit de Cyrus, qui a été promulgué vers 539, les Juifs ont eu l'autorisation de rentrer sur leur terre natale, sur la terre de leurs ancêtres. Mais beaucoup parmi les Juifs qui étaient nés sur la terre de leur exil ont préféré rester sur place parce qu'eux, ils avaient leurs affaires, parce qu'ils avaient établi leur maison, leur commerce, parce qu'ils s'étaient installés là, ils étaient nés là, ils avaient l'habitude. Et beaucoup d'entre eux sont restés là avec leur culture, avec leurs coutumes, avec leur religion et avec leur texte sacré, leur texte biblique, l'Ancien Testament, dont tous les indigènes perses, les autochtones perses, ont pu prendre connaissance, consulter, étudier, y compris nos mages. Nos mages qui étaient en fait, loin d'être des magiciens, c'était des savants, c'était des astronomes, pas des astrologues, des astronomes, des responsables religieux du culte de la religion zoroastrienne, qui n'a rien à voir avec le judaïsme, mais qui néanmoins est monothéiste. Et peut-être que cette forme de religion zoroastrienne a été influencée aussi par le courant du judaïsme qui prévalait dans cette contrée. Toujours est-il que les mages, probablement en lisant des textes prophétiques comme celui d'Ésaïe chapitre 60 verset 1 à 6, ont pu interpréter les signes et le moment auquel l'enfant roi devait naître. Peut-être qu'ils ont lu ce passage d'Ésaïe, on peut le lire succinctement. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde tous, ils s'assemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. D'autres, comme un certain Rémigius, un évêque de Strasbourg, qui a vécu au 8e siècle, pense que la prophétie qui est présente en Nombre 24 s'adresse à Jésus lorsqu'il est écrit « De Jacob monte une étoile ». D'autres pensent qu'il ne s'agit pas, que ce n'est pas lié à la naissance de Jésus, mais plutôt au règne du roi David. Donc les mages, finalement, ils ont très bien pu être mis au courant de l'apparition d'un astre particulier qui annonciateur de la naissance d'un enfant roi à un moment bien précis. Les mages sont venus de loin. Ils sont venus d'Orient. Et ils ont offert à Jésus des cadeaux d'une grande valeur. De l'or, de la myrrhe et de l'encens. Et cet épisode, cet événement, ne nous invite-t-il pas à réfléchir à ce que nous pourrions offrir à Jésus? Qu'est-ce que j'ai à offrir à Jésus? Qu'offrons-nous à Jésus? 2 heures le dimanche matin? 1h30 le mardi soir pour la prière ou pour l'étude biblique? Qu'offrons-nous à Jésus? Jésus mérite davantage que nos miettes. Jésus ne mérite-t-il pas davantage que nos miettes? Ne mérite-t-il pas aussi ce que nous avons de meilleur, ce que nous avons de plus précieux à lui offrir? Comme nous l'avons rappelé ce matin, Jésus, à travers le mystère de l'incarnation, est venu sur cette terre. Il a donné sa vie en mourant sur la croix pour effacer la dette que nous avions envers Dieu. Une dette pour laquelle il nous était incapable. Une dette pour laquelle nous étions devant laquelle nous étions démunis. Il nous était incapable de rembourser la dette de nos péchés devant Dieu. Jésus a tout accompli sur la croix en mourant à notre place. Il nous a donné sa vie afin que nous puissions être, nous, aujourd'hui, au bénéfice d'une vie nouvelle et d'une vie éternelle. Ne mérite-t-il pas en retour de recevoir ce que nous avons de plus précieux, de plus cher, de meilleur, à savoir notre vie, notre propre vie, notre être, notre corps? Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul suggère en Romains 12, verset 1, vous connaissez bien ce passage-là, « Offrez vos corps à Dieu, ce qui sera pour vous quelque chose, un culte raisonnable. » C'est raisonnable. En contrepartie de ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous, il a offert sa vie, c'est raisonnable, à notre tour, en retour, que nous puissions lui offrir notre propre vie. Alors c'est quoi ? Offrir nos corps à Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ? Bien, offrir nos corps à Dieu, notre corps à Dieu, c'est tout d'abord lui offrir, par exemple, nos oreilles. Notre bouche. Nos yeux. Nos mains. Offrir notre corps à Dieu. Offrir notre corps à Dieu, c'est tout d'abord offrir nos yeux. Est-ce que mes yeux, je les offre à Dieu? Est-ce que je m'arrête pour contempler les merveilles qu'il y a autour de moi? Les merveilles de sa création? Est-ce que j'offre mes yeux à Dieu en observant ses commandements, en observant sa parole, en méditant sa parole et en m'y soumettant? C'est le psalmiste qui dit « Ouvre mes yeux », psaume 119, peut-être verset 118, « afin que je contemple les merveilles de ta loi ». Est-ce que j'offre mes yeux à Dieu? Est-ce que mes yeux, je les destine à la glorification du Dieu qui m'a sauvé? Puis offrir mon corps, offrir son corps à Dieu, c'est aussi offrir ses oreilles. Est-ce que mes oreilles écoutent des louanges? Est-ce que mes oreilles écoutent les enseignements de la parole de Dieu? Est-ce que mes oreilles écoutent les commandements que Dieu dispense dans cette parole? Il y a toujours le psalmiste qui dit, qui écrit, non, c'est pas le psalmiste, c'est l'évangéliste Luc au chapitre 11 qui dit « Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Dieu m'a donné des oreilles pour que je puisse les lui donner en retour pour écouter ce qu'il a à m'enseigner. » Et puis, il y a aussi les oreilles que Dieu me donne pour écouter l'autre. Mon interlocuteur qui peut-être connaît une période de difficulté, passe par des moments de souffrance. Est-ce que je développe une qualité d'écoute vis-à-vis de mon frère ou de ma sœur qui connaît des moments de souffrance? C'est ça aussi, offrir mon corps à Dieu, offrir mes yeux, offrir mes oreilles. Est-ce que offrir mon corps à Dieu, c'est aussi offrir ma bouche? Est-ce que j'offre ma bouche à Dieu pour le glorifier, pour lui présenter mes louanges, pour lui présenter mes actions de grâce, mon adoration? Et c'est le psalmiste encore lui qui dit au psaume 119, verset 171, « Ouvre mes lèvres afin que je publie tes louanges. » Et puis, un petit peu dans le verset suivant, il écrit « Ouvre ma bouche afin que je chante ta parole. » Est-ce que ma bouche, je l'offre à Dieu? Alors offrir sa bouche à Dieu, c'est aussi apporter une parole de bénédiction. Dieu prend plaisir à une bouche qui console, qui réconforte, qui bénit, qui encourage. C'est ça aussi offrir mon corps à Dieu, offrir ma bouche à Dieu. Et puis il y a aussi offrir mes mains. Offrir mon corps, c'est aussi offrir mes mains à Dieu. Est-ce que mes mains sont celles de Jésus sur la terre? Est-ce que mes mains sont les mains de Jésus sur la terre? Est-ce que je fais du bien autour de moi avec les mains de Jésus? C'est ça aussi, offrir mon corps à Jésus, offrir mes mains à Jésus. Qu'offrons-nous à Jésus? C'est une question que s'est encore posée il y a bien longtemps le psalmiste David lorsqu'il dit « Mais qu'est-ce que je veux offrir à l'Éternel? Qu'offrirai-je à l'Éternel en retour de, ses bienfaits pour moi? Qu'est-ce que je vais donner à Dieu pour tout ce qu'il m'accorde? Qu'offrirai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ?» Et dans ce passage, là c'est dans le psaume 116, à deux reprises, il va donner deux éléments de réponse pareils, semblables. J'accomplirai mes vœux devant Dieu. J'accomplirai mes vœux devant Dieu. Qu'offrirai-je à l'Éternel en retour, en échange de tout ce qu'il m'accorde? Eh bien, j'accomplirai mes vœux devant l'Éternel. Et vous savez, c'est peut-être une occasion pour chacun d'entre nous de profiter de cette année nouvelle qui arrive à grands pas maintenant, pour que nous puissions nous aussi prendre de nouvelles résolutions, prendre de nouveaux engagements, présenter des vœux à l'Éternel et surtout de les respecter. Qu'est-ce que je vais offrir à Dieu? Chez ma sœur Myriam, il y a sur son frigidaire un magnète. Et sur ce magnète, il est écrit « La vie est un cadeau de Dieu. Ce que vous en faites est votre cadeau à lui, est le cadeau que vous lui faites, vous. » Je ne sais plus comment c'est écrit exactement. « La vie est un cadeau de Dieu et ce que vous en faites est votre cadeau à lui. » Tu l'as toujours sur ton frigidaire? Que faisons-nous de notre vie? Que faisons-nous de notre vie? Est-ce que nous l'offrons à Dieu? Le cadeau auquel Dieu prend le plus plaisir est le don de nous-mêmes, est le don de moi-même. Le cadeau auquel Dieu prend le plus plaisir est le don de moi-même. Alors, c'est le cadeau que les chrétiens de Corinthe ont fait à Dieu, et Paul écrit ceci en ce qui les concerne en 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5, « Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, le don de soi. » Dieu nous a tout donné. Jésus nous a accorder la vie en offrant sa propre vie sur la croix. N'est-il pas raisonnable de notre part que nous lui offrions notre propre vie en retour? Peut-être que nous nous souvenons des paroles de ce cantique, de ce vieux cantique, et nous terminerons par là. Mais je reste quand même beaucoup moins long que Mehdi, donc... Même s'il reste encore 5 minutes, c'est pas grave. Ces paroles du vieux cantique. Peut-être nous souvenons-nous des paroles de ce vieux cantique qui nous dit ceci. Quand je contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît dérisoire. Ô mon sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas pour que ta mort devint ma vie. Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande, mais voici ma vie et mon cœur, c'est ce qu'un tel amour demande. Voici ma vie et voici mon cœur, je te l'offre, Seigneur. C'est ce que ton amour me demande. Tu m'as donné la vie, tu m'as sauvé en t'offrant toi-même. Alors en retour, je t'offre ma vie.